Je suis enregistré, c'est parfait. Donc, un, je vais vous expliquer ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se structurer. Et je vais vous expliquer deux, trois choses sur moi que vous devez comprendre pour essayer de comprendre d'où je vous parle. L'objectif aujourd'hui est de vous amener à réfléchir sur votre manière de penser votre posture, votre manière de vivre votre expérience dans le domaine dans lequel vous êtes. On verra après dans ce que vous faites et différentes choses, allez en discuter entre vous. Mais de pouvoir essayer de prendre d'avoir une conscience plus ample de ce que vous amenez, mais aussi de qui vous êtes dans cet élément-là, et une conscience plus ample de ce que vous pouvez apporter, ou potentiellement aussi des choses que vous devez arrêter de faire. Donc on va essayer d'être assez ouvert par rapport à ça. Par contre, l'enjeu, c'est que je vais vous amener à travailler et à travailler pas mal. Parce que, en réalité, ce que l'on va faire, c'est que durant cette journée, je vais vous demander de pouvoir réfléchir à des questions auxquelles vous aimeriez trouver des réponses. Et vous allez avoir des petits groupes où vous allez essayer de trouver, de répondre à ces questions ensemble. Donc les réponses ne viendront pas de moi. Je n'ai pas la prétention de vous dire de quoi vous avez besoin, comment faire votre boulot. Si j'avais cette capacité-là, je ne serais pas là. J'aurais écrit un bouquin, je serais millionnaire et je ferais des trucs. Mais l'objectif est plutôt de se dire, tiens, entre les éléments, les expériences, vos manières de penser et de réfléchir, que vous puissiez créer un puzzle qui soit un peu plus complet en vous aidant les uns les autres. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc on va avoir un processus à un moment où on va se dire, tiens, on va prioriser certains éléments, certaines questions. Vous allez décider ensemble et on va se concentrer sur six questions, quelques questions, vous allez vous mettre en groupe et puis vous allez essayer de réfléchir à ça. L'enjeu, du coup, pour moi, c'est que vous ayez une posture qui soit à la fois ouverte sur vos questionnements, à la fois bienveillant et attentif par rapport aux personnes que vous allez avoir en face de vous, en se disant, personne n'a de réponse complète. L'enjeu est de se dire, vous allez pouvoir vous amener les uns aux autres, et que aussi pour moi, il y a un enjeu qui fait un peu partie de d'où je viens, d'où je vous parle et pourquoi je suis là. Je suis chrétien depuis très longtemps, et j'ai longtemps pensé, j'ai longtemps, et malheureusement, longtemps séparé ce qui était ma vie spirituelle et ma vie autre en dehors d'eux. Et j'essaie encore, je suis encore profondément en train d'apprendre à me dire, en fait, si Dieu est partout, si Dieu est tout le temps là, si je le crois profondément, alors ça veut dire qu'à tout moment, Dieu peut apparaître et Dieu peut parler. Ce qui veut aussi dire qu'à tout moment, dans les discussions, dans les échanges que vous allez avoir, Dieu peut transmettre des choses. Et l'autre chose aussi qui m'interpelle, et je suis encore en train d'apprendre là-dessus, c'est que Dieu parle de manière parfois très bizarre, et parfois, Dieu parle aussi à travers vous de manière très bizarre. Et donc, de pouvoir s'attendre à ce que vous puissiez vous donner de l'aide, du conseil, du support, mais que potentiellement aussi, il y a un aspect spirituel qui soit présent, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est toujours là. Donc ça, c'est l'un des enjeux. D'où je vous parle, du coup? Je vous parle de cette posture, d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on a de l'impact, essayer de comprendre ce qui se joue dans les relations que l'on a les uns avec les autres, essayer de comprendre aussi la relation que nous avons avec nous-mêmes et qui explique beaucoup de nos comportements. Et je vous parle aussi depuis la posture du « je suis marié à une femme infirmière ». Et en fait, cette question de vocation-sacrifice, pour moi, n'est pas juste une question théorique, c'est une inquiétude. Et je me permets de vous le dire parce que vous vous êtes peut-être dit en venant ici, en fait, la question c'est sur moi. Est-ce que moi, est-ce que je suis dans une posture de vocation ou sacrifice? Je veux aussi vous amener à penser que ce que vous décidez ou la posture que vous prenez a aussi des conséquences sur les autres personnes autour de vous. Et qu'il ne s'agit pas juste de vous en tant que tel, il s'agit des gens que vous aimez qui sont autour de vous et qui vivre, souffre ou apprécie ce que vous vivez aussi. Il s'agit aussi de la posture que vous prenez va avoir une forte influence sur les gens, vos patients, entre autres, va avoir aussi une influence sur la société dans laquelle vous êtes. Et on va voir après ce côté, tiens, sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres et comment, pourquoi il y a de la frustration en ayant l'impression d'être dans le sacrifice, mais qu'en fait, on n'est pas valorisé. Ouais, mais en fait, si sacrifice et vocation, pas de bol. Et hier, entre autres, j'étais avec un ami qui est prof, et qui a fait la grève dans la rue en disant c'est pas normal, quoi. On fait un boulot qui est essentiel pour la société, et en fait, on a l'impression que ça n'a d'importance pour personne. Et, ouais, mais en fait, il y a un truc du. Si moi, imaginons que je sois chef et que je dois me penser, tiens, augmenter le salaire, et que je suis dans la négociation et que je me dis, ouais, mais en fait, même si je n'augmente pas le salaire, tu resteras. Alors pourquoi l'augmenter? Et donc ce truc du, ah tiens, vocation sacrifice, ah ouais, c'est un enjeu pour vous, mais en fait, ça influence fortement la relation qu'ont les gens vis-à-vis de vous. Donc on va essayer de voir un peu tout ça. Ça vous va? Donc, entre maintenant et 10h45, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir, d'essayer de pouvoir amplifier vos consciences en disant, essayant de prendre pas mal d'éléments, et de pouvoir réfléchir avec tout ça sur, tiens, à quelles questions j'aimerais qu'on puisse répondre ensemble. Si je vais poser une question aux autres personnes qui sont là, quelles seraient ces questions, de quoi j'aurais besoin, avec quoi j'aimerais repartir aujourd'hui. On fera aussi une chose, c'est que les personnes qui sont en ligne, vous allez travailler entre vous. Pardon, la caméra est là, du coup. je suis en train de parler là, je me rends compte que non. Donc, les personnes qui sont en ligne, vous allez travailler en sous-groupe entre personnes qui sont en ligne. Ça, je pense que ça sera plus simple. Avec tout ça, je vais commencer. Ah si, petite chose, sur la notion de complexité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on commence à le voir, vous êtes au milieu de plein de choses. Il y a vous, il y a vos patients, il y a votre famille, il y a la société, l'environnement, il y a vos émotions, enfin, il y a pas mal de choses qui se mélangent. Et en fait, parfois, c'est difficile de se dire, tiens, comment est-ce qu'on réagit face à cette complexité? Et j'ai juste envie de vous dire quelque chose que j'ai vécu hier pour vous expliquer un peu comment, en fait, on vit une vie très étrange. Hier, je me suis retrouvé avec une autre personne qui était au GBU d'ailleurs à l'époque, et ça faisait assez longtemps qu'on ne s'était pas vu, et on a pris du temps, on s'est retrouvé à Paris pour pouvoir se donner un peu de nouvelles. En fait, c'est une personne qui a eu ces derniers temps, cette dernière année, une année assez compliquée, parce qu'il y a eu plusieurs décès, et entre autres une personne de sa famille qui s'est suicidée, donc c'était une conversation un peu compliquée. Et pendant qu'on a eu cette conversation, on était sur les bords de la Seine, et on s'est assis dans un bar. Et alors qu'on avait cette conversation complexe, il y a l'association des clowns sans frontières qui sont installés autour de nous. En fait, ils étaient en train de préparer un spectacle qu'ils allaient faire en fin d'après-midi. Et donc, il y avait, je pense, une quarantaine de clowns. Donc, nez rouge, les fringues. Il y en avait un qui était avec un accordéon, l'autre avec la guitare, une femme qui chantait version opéra. Et donc, on avait cette conversation. Et puis, de temps en temps, la femme revient. Et en fait, c'est très étrange parce qu'on se dit, est-ce qu'on a le droit même d'être à la fois dans quelque chose de très triste et puis soudainement avoir envie de rire? Est-ce qu'il est normal d'être dans une société où ces choses peuvent vivre ensemble? Où on est dans Paris, c'est très joli, et on a cette conversation qui est relativement triste et forte, et puis on a ces gens, les clowns, qui sont là. En plus, il commençait à pleuvoir. Enfin, c'était totalement irréaliste, mais irréaliste, mais réel. Et en fait, ce que je veux vous transmettre avec ça, c'est que votre expérience, vos histoires sont souvent un mélange de ça, en fait. Ce n'est pas juste une chose ou une autre, c'est que souvent, il faut réussir à trouver un équilibre entre toutes ces choses qui génèrent des émotions, des sensations, des réactions. Je fais quoi avec tout ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans le monde de la santé, Lucie, donc ma femme, m'expliquait, elle travaille dans le monde de la tuberculose. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle travaille beaucoup avec des gens qui sont issus de l'immigration, souvent des gens réfugiés, qui vivent des histoires fortes, difficiles, et qui même parfois, on arrive à se dire, en fait, on vient de vivre un truc tellement fort et tellement difficile que la tuberculose, en fait, c'est le dernier de nos soucis. Et parfois, elle est face à des gens où elle se dit, mais en fait, ce que je fais est vraiment important. En fait, il faut vraiment traiter ce truc. Et puis, en fait, les gens ont la pensée dans autre chose, quoi. Et malgré ça, dans ces moments-là, parfois, il y a le gamin, donc il faut aller le piquer. Et puis, tu as le gamin, il fait, ah, non, non. Et puis, tout le monde se marre. Et tu dis, OK, c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on est? Mais juste pouvoir être prêt à affronter cette complexité. Et c'est ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de pouvoir accepter cette réalité en fait, que vous vivez déjà, mais de pouvoir, dans vos rencontres, dans vos échanges, de pouvoir accepter cette complexité. Ça va jusque-là? Ok. J'avance. J'avais une première partie sur la notion de charge mentale. En fait, je vais la faire très, très vite parce qu'on va la voir par la suite. En fait, la charge mentale, définition un peu officielle, coût d'énergie de traitement d'une information ou d'une tâche pour un individu dans un temps et dans un contexte donné. En gros, c'est face à une tâche que je dois faire, combien ça me prend d'énergie pour pouvoir faire face à celle-ci. En réalité, comme c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, on parle beaucoup de charge mentale. Dès qu'on parle charge mentale, on parle un peu de quelque chose de négatif. En fait, la charge mentale, c'est quelque chose de nécessaire. À chaque fois que vous êtes dans la réflexion dans quelque chose, vous êtes en charge mentale. Elle est potentiellement forte ou pas forte, mais en fait, la charge mentale, elle est présente normalement. Et en réalité, même, on a plutôt tendance à aller la chercher. C'est-à-dire que parfois, on a du plaisir. Vous apprenez quelque chose de nouveau, il y a un plaisir dans cette charge mentale, dans le fait de pouvoir mettre de l'énergie pour essayer d'apprendre et pouvoir grandir. Donc, il y a un aspect qui est quand même positif. Par contre, il y a l'autre aspect qui est sur la notion de surcharge mentale. Et c'est l'une des choses dont on parle très souvent dans le monde de la santé. Je vous dirais, je le vois dans plein, plein de domaines différents, et ce qui est presque un problème de société, en fait. La sensation comment se fait-il que tout le monde ait tout le temps la sensation d'être en surcharge? Sur plein, plein de raisons, plein, plein de raisons différentes. Mais quelques sources. L'effort mental trop important. En gros, c'est je me lance dans un truc qui va me demander une concentration énorme. Potentiellement, ce n'est pas le bon moment. Potentiellement, c'est trop fort. Mais en tout cas, le fait de se dire d'être dans un effort trop important. Deux, trop d'informations ou de canaux à gérer en même temps. Alors ça, on est en plein dedans, quoi. Téléphone. Là-dessus, j'ai un WhatsApp, un Telegram, mes mails. Je rajoute sur mon ordinateur, j'ai des Slack, des trucs. Je travaille dans différentes organisations. Chaque organisation a son propre système d'information. Ma femme, qui commence son nouveau boulot, me dit, en fait, dans le service où je suis, je prends des informations papier, je retourne à l'hôpital et j'ai cinq systèmes de données dans lesquels je dois me mettre. Et donc, pour savoir comment gérer mon patient, il faut que j'aille chercher des informations dans cinq systèmes. Et après, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs. J'ai peut-être un indice. Donc, le fait d'avoir trop d'informations ou trop de canaux à gérer en même temps, trop d'intentions mentales en même temps. Alors, ça, c'est l'un des soucis quand on se croit capable de gérer plein de choses à la fois. Alors, le truc classique homme-femme, comme on dit, donc les femmes sont multitâches, elles sont tout à fait capables de trucs. Je vais pas me faire des amis, mais il faut que je le dise. Ce n'est qu'en partie, je ne veux pas dire ce n'est pas vrai. Donc ce n'est qu'en partie vrai. En réalité, il y a des choses, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Il y a des choses, donc si vous êtes dans des choses qui sont automatiques, par exemple, donc vous êtes habitué à conduire, vous conduisez, vous passez un appel, et puis ou à la fois vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Ça marche. Parce qu'il y a quelque chose qui est automatique et là, l'autre chose qui vous demande un niveau de concentration moyennement élevé. Par contre, et donc, vous faites ça, vous faites votre route habituelle, et puis vous dites, tiens, je suis arrivé, je ne me suis même pas rendu compte, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Par contre, il y a le truc du, si vous faites quelque chose de nouveau, vous rajoutez quelque chose de nouveau, et je vous demande de faire un calcul mental de 57 fois 33, là, c'est plus possible. Et donc, en fait, cette notion de multitâche est plutôt liée à la nature des tâches que nous avons à faire et leur intensité, plutôt que la capacité en tant que telle à pouvoir faire de multitâches. Ce qui veut aussi dire, et ça, c'est l'un des gros problèmes de notre société, on est souvent poussé à croire qu'on est capable de faire des multitâches et que si on n'est pas capable, on a un problème. Et donc, il y a ce truc du je devrais être capable de. Et si on n'est pas conscient de nos propres limites, on a tendance à aller tenter de faire des choses dont on n'est pas capable. Et donc, le multitâche est l'une des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant parce que entre les différents canaux que nous avons qui nous envoient plein d'informations et on se dit, mais en fait, c'est bon, je vais pouvoir tout gérer à la fois. Vous rajoutez à ça la famille, les amis, le bien-être physique, etc. En fait, vous mettez plein, plein de trucs à la fois, bien sûr, vous explosez pas. C'est un peu comme le principe de l'ordinateur qui doit gérer plein de tâches à la fois. Même si l'ordinateur est très puissant, il y a un moment où il va dire OK, on va s'arrêter là. Donc, la notion de multitâche est l'un des points assez importants sur à quel moment je m'arrête quoi, et sur quoi je me concentre. Du coup, j'ai dit. Déconcentration ou manque d'attention. Ça, c'est le truc classique. J'écris ça comme si je le maîtrisais, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Il m'arrive de bosser en ayant Netflix devant. Je ne le dis pas à personne, c'est entre nous. Mais effectivement, le fait de ne pas être concentré sur quelque chose, un, nous fait perdre beaucoup de temps, deux, beaucoup d'énergie. Et puis en fait, au niveau du cerveau, ça consomme justement énormément d'énergie. La sensation de ne pas pouvoir être concentré sur un élément, avoir l'impression de pouvoir le finir, mais de se mettre à faire plusieurs choses à la fois, de ne pas être vraiment centré sur ce qui se passe et avoir l'impression que ça perdure, ça s'éternise. Donc, parfois, il vaut mieux arrêter tout, se concentrer sur une chose et se dire, je fais ça. Et ce qui veut dire parfois, j'éteins mon téléphone. Moi, j'ai géré des équipes pendant un certain temps. Et je sais que parfois, j'avais besoin de dire à mes équipes, je ne réponds à personne. Vous m'envoyez un mail, je ne vous répondrai pas. Vous me téléphonez, ils sont en mode avion. Et donc, j'ai dû expliquer d'ailleurs la notion d'urgence. Très intéressant, hein, la notion d'urgence. On a l'impression qu'on vit dans une société où tout est urgent. Et donc, j'avais des personnes dans l'équipe qui m'appelaient, donc j'avais des équipes de commerce à l'époque. Et j'ai dû avoir une conversation avec une personne de mon équipe très forte sur la définition d'urgence. Parce qu'elle m'a appelé en disant, c'est urgent, il faut absolument que tu m'aides, ou c'est urgent, il faut absolument que tu me rappelles. Moi, j'entends urgent, normal, instinctif, j'appelle. J'arrête tout. Et j'appelle. Et des fois, c'était une bêtise, quoi. C'était le truc, ouais, j'ai oublié de te dire que finalement, le pain au chocolat, je l'amènerai à 9 h. Suis chrétien, je ne peux pas vous dire ce que j'ai pensé à ce moment-là. Mais je l'ai pensé. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de définir, avec des personnes avec qui je collaborais, cette notion d'urgence. Urgent, c'est vie ou mort. C'est-à-dire que j'arrête tout et j'y vais. Par contre, si ce n'est pas urgent, et c'est là où il y a un des grands problèmes. Je n'ai pas à prioriser ce que toi tu veux sur ce que moi je considère comme prioritaire. Donc, il y a une part de ma responsabilité de pouvoir dire ce que je pense être prioritaire, que je dois atteindre, que je dois obtenir, et que je ne sacrifie pas, on parlait justement cette question de sacrifice, que je ne sacrifie pas à l'autel de ton désir à un moment donné qui ne prend pas du tout en compte tout ce qui se passe autour. Ce qui est souvent vrai dans vos boulots. Et il y a un souci là-dessus par rapport à la concentration sur quelque chose et l'intention de vouloir aider les gens. Et parfois, ça va un peu en opposition. C'est-à-dire, je devrais faire quelque chose, je pense que c'est important. Quelqu'un me dit, j'ai besoin de toi. En fait, le besoin génère quelque chose chez moi qui fait que je dis, OK, j'arrête tout, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? OK. En ligne, ça va? Oh, avant de continuer, j'ai oublié. Colette, j'ai failli t'oublier, mais je reviens à toi.
Oh
Donc,
là
pour dire,
là!
Colette fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque je suis arrivé où j'ai vu, 96. Et donc, j'arrive, j'ai rencontré peu de personnes, et je me souviens, et je peux vous le dire vraiment, je pense que si vous demandez à toutes les personnes qui étaient où j'ai vu à ce moment-là, Colette était une boule d'énergie incroyable, et une boule d'énergie hyper positive. Et je pense, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Colette, j'ai oublié à chaque fois que la caméra est là. Il y a un aspect qui est vrai dans tous les domaines, la différence entre compétence et énergie. En fait, la compétence, la capacité à pouvoir arriver à un résultat et de pouvoir le faire de manière efficace. Et l'énergie qui fait que les gens perçoivent quelque chose chez la personne qui est en face de moi qui me fait du bien. Et Colette est ce type de personne, très clairement. Colette, c'est le
Oh
type de
là
personne, vous la voyez et vous repartez avec un sourire. C'est bizarre, quoi. C'est non, mais
là.
j'étais pas venu même pour ça, quoi. Mais j'ai ce
Oh
souvenir-là.
là
Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir Colette ici. Ça fait plaisir de vous voir, hein. Mais
là.
ça fait vraiment plaisir de la voir là. OK, je finis cette parenthèse. OK, je vais revenir. Donc, vous avez, certains d'entre vous, répondu à un questionnaire. Donc, je vais revenir sur certains résultats de ce questionnaire. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans votre avis. Donc, questionnaire, je n'ai pas pris toutes les questions, je vais en reprendre juste certaines.
On l'a envoyé longtemps avant
OK, alors j'explique très très vite. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été posé. Donc, moi, j'ai 25 réponses, sans doute là, avec des questions sur différents domaines, sur la manière de percevoir votre boulot et votre posture au sein de ce boulot. Donc, il y avait une bonne dizaine de questions, je pense, avec différents domaines. Et donc, j'ai juste pris certaines de ces réponses pour mettre en lumière certains éléments qu'on va aller creuser par la suite. Première question, aux surprises, Pour vous, est-ce que le métier de soignant nécessite des sacrifices? 96% de oui. C'est... Ah oui, non. Il n'y a que les dictateurs qui reçoivent autant de votes. C'est incroyable. Donc, il y a quand même la conscience en tant que telle de se dire, tiens, presque le côté naturel de se dire, ce boulot nécessite du sacrifice. Ce qui pose potentiellement la question du « ouais, mais alors du coup, pourquoi ?» Parce que à moi, quand vous êtes forcé, vous avez tous décidé d'aller dans ce boulot. Donc, il y a quand même des questions par rapport à ça. Ah, après, on vous a menti au départ. Ok. Attendez, on va aller un peu plus loin. Si oui, donc, il y a deux personnes qui ont répondu non. À mon avis, elles se sont trompées de bouton. Mais c'est pas grave. Du coup, on est passé de 25 à 23. De 23, c'est si oui, ces sacrifices se réfèrent à quel domaine? Augmentation du stress, déséquilibre vie professionnelle et familiale, moins de temps de loisirs. Je vais juste en prendre trois, je vais pas prendre les autres et dans les autres questions, je vais faire la même chose. Donc, c'est intéressant quand même la sensation que dans ce boulot, quoi qu'il arrive, il y a quand même cette sensation d'avoir du stress. Et il y a un point, je fais juste un point rapide sur le stress. Donc, le stress, la réponse physiologique de l'organisme provoquée par la confrontation avec un danger, une menace, un environnement difficile. Ok, ça marche. Je suis dans un domaine que je suis en train de vivre et quelque part en moi, il y a une réaction naturelle qui se joue là-dessus. Par contre, la réalité, si on va un peu plus loin, c'est presque plus une question de perception. Perception de l'environnement que je vis, que je vois comme un danger ou comme une menace pour moi, et perception de mes ressources. Est-ce que je suis capable, vis-à-vis de cet environnement, de pouvoir y faire face? Ce qui veut dire que si on fait du saut en parachute, en fait, on vit la même situation et le niveau de stress va être très différent selon les personnes. Parce que certains y verront une menace, d'autres vont se dire « Oh, génial !» Moi, je fais plutôt partie du premier groupe, je vous avoue. Et puis, il y a des gens qui l'auront déjà fait 50 fois et qui se diront « Je maîtrise ». Et puis, il y a des gens qui le font la première fois. En fait, c'est assez intéressant parce que j'ai parlé avec un moniteur qui accompagne des gens au saut en parachute et qui dit « Souvent, lorsque les personnes sont devant la porte et qu'elles sont sur le point de sauter, arrive ce moment où les gens ont potentiellement envie de revenir en arrière, de se dire « j'ai pas envie de sauter ». Et du coup, le truc, c'est que depuis la posture du moniteur, c'est de dire « ok, maintenant, 1, 2, 3, on y va ». En fait, de pousser la personne à l'action, parce que si je laisse parler le stress, c'est fini, quoi. Donc, de ne pas lui laisser trop de temps. Mais en tout cas, il y a dans cette notion de stress, il y a presque plus une notion de perception, de comment je vois l'environnement et comment je me vois, que simplement la partie naturelle du processus. Mais en tout cas, assez intéressant, stress, pour la plupart d'entre vous, fait partie de sacrifices à accepter. Voilà. Un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous pousse, vous motive à faire ces sacrifices? Donc, il y a un truc qui est intéressant, parce que je vais différencier deux choses dans la question. Qu'est-ce qui vous pousse? C'est plutôt quelque chose d'extérieur. En fait, pousse, c'est quelqu'un derrière moi. Qu'est-ce qui vous motive? C'est potentiellement quelque chose qui est à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Et effectivement, il y a dans cette notion de sacrifice, cette double notion du « est-ce que ça vient de quelque chose qui m'est imposé ou qui m'est demandé ?» ou « est-ce que c'est moi qui vais vers ce sacrifice parce que je le souhaite ?» Et donc, dans les raisons, il y a besoin du patient, le soin. On va voir après, du côté du « en fait, comme je le fais pour quelqu'un d'extérieur, il y a quand même une notion de beauté, mais de nécessité à la fois. Quelque chose fait que moi, j'ai une utilité dans le fait de pouvoir aider cette personne qui a un besoin spécifique. Et je vous disais tout à l'heure cette notion de parfois, quand on entend besoin, on arrête tout, on y va. Moi, je suis un peu comme ça. Je me dis, de temps en temps, je suis allé beaucoup trop loin. Ah ouais, on m'a dit besoin. Un, le besoin n'était peut-être pas celui que je pensais. Deux, je n'étais peut-être pas la personne pour pouvoir répondre à ce besoin. Mais en fait, parfois, j'entends ce truc et je me dis, ah ok, il faut y aller. Quoi. Ok, ça marche. On va en parler après. En deuxième, amour du métier, vocation. Alors ça, c'est plutôt intérieur, du coup. Ça, c'est plutôt le fait de se dire, ah ouais, en réalité, il y a du plaisir, quoi. Et c'est un peu ça qui est tordu. On avait tout à l'heure sacrifice. Et donc, si vous dites aux gens, tiens, est-ce que vous aimez les sacrifices? Ah! Mais en fait, Là, il y a quand même un truc du. Ouais, c'est un sacrifice un peu plus complexe parce que malgré tout, il y a un côté hyper positif que je vis et que j'expérimente là-dedans. Et trois, diversité, compétences du métier. Et donc, il y a quand même cette sensation du pour soi, grandir. Pour soi, découvrir des choses de soi. Pour soi, pouvoir se former sur des éléments nouveaux. Il y a quelque chose de découvrir des choses de soi. Donc, il y a le côté extérieur, il y a le côté émotion, il y a le côté grandir malgré tout. OK? Ça marche. Mais ce qui veut dire que le sacrifice, du coup, n'est pas juste le côté négatif, n'est pas juste lié à l'environnement. Il y a aussi des choses de nous, ça reflète des choses de nous qui sont quand même assez intéressantes. Ça va jusque-là? Je pousse? Vous allez bien? OK. Bonne question. Parce que ça, il y a plein de gens autour de vous qui se posent la même question, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans le soin malgré les sacrifices qu'il demande? Mais c'est assez logique en fait. Hein. C'est-à-dire, on a dit, on vous a potentiellement pas imposé de commencer ce boulot. Vous m'avez dit, on ne le savait pas. Ouais, mais on ne vous a pas imposé de rester. Donc si vous y êtes, ça reste encore de votre responsabilité, quoi. Nous, plusieurs choses. Qu'est-ce qui vous pousse à rester? Relation avec les patients. OK? Ça marche. Je prends. Alors, c'est sentiment besoin de me sentir utile. Ah tiens, intéressant. Il y a quand même la sensation que ce n'est pas juste ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a aussi ce que moi je ressens en étant là, qui font que je me dis en fait ce sacrifice vaut la peine, d'une certaine manière. En trois, diversité. Aussi, diversité, compétences du métier qui rejoint ce qu'on a vu avant. Et en quatre, enseigner, apprendre. Et donc, il y a, et je vous disais cette complexité, un peu mon exemple de mort clown, en fait, les choses qui semblent ne pas forcément aller ensemble, mais qui en fait sont ensemble. C'est juste à accepter, quoi. Il y a la souffrance liée au sacrifice, aux conditions, etc. Et puis, il y a cette notion plaisir, croissance, diversité, qui est en même temps là, et qui fait que, ouais, en fait, on ne lâche pas, quoi. Parce que sinon, cette conférence, on pourrait la finir en 5 minutes, quoi. Sacrifice, vous ne voulez pas? Bah, changer de boulot. Merci, au revoir. OK. Du coup, parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont le plus proche de ce que vous ressentez? Première réponse. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Bravo, les gars! Ah ouais, on commence en se disant, ouais, boulot, sacrifice, c'est dur, etc. Les conditions sont compliquées, il y a plein de trucs. Et puis, alors là, vous donnez la première question, non, non, mais moi, je ne changerais rien. Et c'est là où je vous disais cette notion du, ouais, mais en fait, si je devais négocier pour améliorer vos conditions, ben, pourquoi? Si vous êtes content, s'il y a plein de trucs positifs et en plus vous n'avez pas envie de changer, pourquoi je paierais plus cher pour obtenir la même chose? Pourquoi je vous donnerais de meilleures conditions, de meilleurs horaires alors que finalement on est pas mal là? Hein? Donc il y a un truc. Deuxième réponse. Le métier de soignant est le plus beau métier au monde. Ah, waouh! En fait, c'est assez intéressant. Quand vous parlez avec des gens autour, parfois il y a des gens, vous avez peut-être entendu ça, qui vous diraient, c'est impressionnant ce que tu fais, tu aides les gens, ça doit avoir vachement de sens, etc. Et la phrase continue sur, en fait, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Déjà arrivé ça?
C'est vrai.
Ah ouais, plus beau métier au monde pour toi, quoi. Et donc, il y a cet aspect quand même impressionnant de se dire, c'est dur. Mais en fait, on a le privilège de faire le plus beau métier au monde. OK, donc vous vous positionnez comment? C'est quoi le vrai truc? Du coup, je vais vous demander. Ouh, je suis en retard. Mais on va se rappeler. Mais c'est plutôt cette fois. On va se prendre 7 minutes pour l'instant. Juste 7 minutes. Je vais vous demander de vous mettre un groupe de 3-4 personnes et de pouvoir commencer à répondre à cette première question. Du coup, pour vous, ce que vous vivez actuellement, vocation ou sacrifice? Et vous en discutez, 7 minutes, on revient. Ça vous va? 3-4, on fait ça. Les personnes qui sont en ligne, ça va, vous m'entendez bien, les personnes qui sont en ligne d'ailleurs, vous m'entendez? OK. Alors, je vais vous demander de faire la conversation entre vous en ligne, si ça vous va. Ça marche? Alors, tu dois.
Ok.
Oui.
Voilà.
À
À plus tard.
bientôt.
Hey, il faut nous sortir de la chambre.
Ah oui, là, il nous a oubliés. Pensez
Oui,
nous. Je vais pas faire répondre à la deuxième question parce qu'on va faire un autre truc juste après. L'idée, c'est que vous puissiez commencer dès maintenant à pouvoir penser à, tiens, quelle question j'aimerais proposer au groupe pour qu'on puisse potentiellement y réfléchir ensemble. Donc, commencez à y réfléchir parce qu'on va prendre du temps après là-dessus. Ça allait dans vos discussions en groupe? Vous êtes plus vocation, vous êtes plus sacrifice, c'est quoi les trucs? D'accord. Ok, ça marche. Il y a un truc qui est intéressant quand même par rapport à cette notion de vocation sacrifice. Donc, je reprends l'exemple de ma femme, comme je disais, elle travaille dans un département de lutte anti-tuberculose. En fait, le processus qui s'est passé parmi certains d'entre eux, c'est que certaines personnes l'ont vécu comme une vocation forte. C'est assez intéressant, pour la tuberculose, il y a une espèce de sous-monde dans le monde de la santé où il y a vraiment des gens hyper passionnés. Et donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme cette vocation a amené les gens à s'impliquer énormément, et c'est ce qui se passe souvent en fait avec les principes de burn-out, les principes de lâcher prise, c'est que je vais jusqu'au bout, jusqu'au moment où je pète complètement. Et du coup, on peut passer facilement de vocation à sacrifice, mais comme si c'était un retour d'élastique. Parce qu'on n'a pas vu les premiers signes où c'était beaucoup trop, on ne s'est pas préservé, jusqu'au moment où on s'est dit, OK, là, je ne peux plus, et je lâche tout. Donc, il y a un aspect quand même assez intéressant de pouvoir être vigilant sur percevoir les signes suffisamment tôt pour se dire à quel moment c'est trop pour moi, quoi. Parce qu'il y a une espèce de reconnaissance et quelque chose de positif à se dire, j'ai fait quelque chose que j'aime, c'est chouette, je suis utile. Et parfois, ne pas se rendre compte qu'en étant trop là-dedans, en fait, on se met en risque, et on met en risque aussi tous les autres qui sont autour. Donc, il y a un point là-dessus. Et donc, vous avez parfois des gens, vous parlez avec la même personne à un an de différence, en fait, c'est le même boulot. Et pourtant, la vue n'est plus du tout la même, quoi. C'est le truc, j'en peux plus, en fait. J'ai tellement poussé que. Et donc, on va aller un petit poil plus loin là-dessus. Et je vais vous parler de l'exemple de Marthe dans l'église. Je vais le faire très rapidement, mais je vais vous expliquer deux, trois choses parce que toute coïncidence avec des vies proches du monde de la santé serait tout à fait volontaire et assumée. Ok, donc je vais donner le test de Marc, on va essayer de voir deux, trois choses par rapport à ça. Donc il s'agit, bon, je vous lis le texte, si vous êtes bien, puis après on va dessus. Donc, dans Luc 10, versets 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Hop, et une femme, du nom de Marthe, l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée.
Voilà.
J'aime beaucoup Marthe. Je m'identifie parfois à Marthe. Marthe est la personne qui aime bien s'occuper des choses, voir la partie logistique, voir comment faire, comment gérer. Il y a un autre texte aussi où vous vous souvenez peut-être quand Marthe et Marie ont passé derrière Lazare. Lazare décède et Marthe fait appeler Jésus. Et la première chose qu'elle dit, Jésus arrive en retard. Il devait être parisien, je sais pas. Mais il arrive avec 4 jours de retard quand même. Et Marthe dit, ouais, en fait, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, quoi. Et c'est fort, quand même. Mais Marthe pense à ce côté logique du tiens. Quelle posture on devrait avoir, comment est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir atteindre un résultat. Et donc, il y a cet aspect-là du Marthe prend l'initiative d'amener Jésus. Marthe prend l'initiative de se mettre au service. Marthe fait le commentaire à Jésus de ce qui se passe. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est. Donc, ça, c'est une peinture de Vermeer qui est en Écosse, je crois, et qui représente cette même scène. Jésus, Marie, tranquille. Lucas, je m'assois, j'écoute. Et Marthe, il est là en train de servir, en se disant bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on mange, il est quelle heure, comment ça va se passer, etc. Okay. Et je vais vous expliquer en prenant l'exemple du triangle de Cartman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un truc assez réputé. Il y a un psychologue qui a parlé de postures que l'on a parfois naturellement et qui, en réalité, parfois nous emprisonnent et nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Donc, on est tellement pris dans une posture que ça influence toutes nos relations avec les autres. Et il parle de trois postures. La posture de victime, la posture de sauveur et la posture de persécuteur. Et c'est intéressant parce que dans cette première posture, donc Marthe se met en posture de victime. Elle dit, c'est pas possible, quoi. Personne ne voit ce que je suis en train de faire. Vraiment, quoi, je suis en train de bosser comme une malade et personne ne voit rien. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met Jésus en posture de sauveur, en disant, hey, moi, je vais pas bien, toi, fais quelque chose. Et c'est marrant, en fait, elle ne le dit pas directement à sa sœur. Elle le dit à Jésus en disant, ça me semble logique que tout le monde voit ce que je suis en train de faire et la valeur de ce que je suis en train de faire. Et donc, il est logique que quelqu'un vienne m'aider et vienne me secourir à ce moment-là. Et en mettant forcément Marie en persécuteur qui, par le fait qu'elle ne fasse rien, me rajoute sur moi un poids. Et c'est intéressant comme quoi je prends une posture, je mets tous les autres dans une autre posture en lien avec, en fait, l'enjeu 1, c'est que je sois reconnu. Je fais quand même quelque chose d'utile et personne ne le voit. Et donc, et la reconnaissance est l'un des besoins les plus marquants que l'on voit actuellement dans la société. On sent un besoin de reconnaissance immense et on a du mal à le percevoir. Qui est censé nous donner la reconnaissance? Comment est-ce qu'on est censé recevoir cette reconnaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne la reçoit pas telle qu'on souhaiterait l'obtenir? Et donc, il y a un truc de reconnaissance et un truc du aidez-moi à faire ce que je suis en train de faire. En fait, mon truc est important. Aidez-moi, quoi. Et donc, ce côté victime met les gens dans d'autres postures. Et c'est intéressant comment Jésus ne rentre pas dans le truc, quoi. Autant on dit Jésus le sauveur, et là il fait, ben non. En fait, c'est ta sœur qui a raison. Limite, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, en fait.
Oh la
Peu
vache.
étonné, quoi. Mais bon, tu as choisi, hein. Et là, tu me poses la question, je te le dis. Sais pas. Et donc, il y a un truc du. Ah non, en fait. Tu veux un sauveur, mais tu veux un sauveur qui n'est pas celui que je veux te donner, quoi. Et donc, il y a un point qui est assez intéressant par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut facilement passer d'une posture à une autre. Et donc, Marthe est aussi en posture de sauveur. Parce que quelque part, elle se dit en elle-même, heureusement que je suis là pour faire ça, quoi. Si moi, je ne le fais pas, donc moi, j'invite quelqu'un à la maison, si moi, je ne pense pas au côté du je vais le nourrir, je vais prendre soin de lui, je vais faire attention. Personne ne le fait, désastre quoi. Et donc la sensation du l'importance que j'ai dans cette situation quoi. Et même dans ça, il y a le même principe de reconnaissance, mais malgré tout, il y a cette même chose du je me mets en sauveur, du coup je mets Jésus en persécuteur bizarrement. Parce que je dis, en fait, toi Jésus, tu devrais voir ce que je suis en train de faire. Si toi tu ne le vois pas, en fait ça me fait souffrir. Et donc, il y a un point de se dire, en fait, Jésus, tu fais quoi, quoi? En fait, je suis en train de faire un truc qui est fondamental, essentiel, et dans ça, je ne te vois pas. Dans ce moment-là, je ne sais pas ce que tu fais. Et Jésus parle. Et voilà, en fait, il est venu pour ça. Hein? Il est venu pour les enseigner, il est venu pour un autre truc. Et malgré tout, lorsque Jésus est pleinement dans son rôle, on le perçoit comme persécuteur à ce moment-là. Et bizarrement, du coup, la Marie devient celle qui fait, voilà, il fait rien, quoi. Limite, tu ne sers à rien. Dans cette histoire-là, c'est quoi ton rôle? Il y a des choses fondamentales qui sont en train de se jouer. En fait, tu es juste là. Tu es juste assise, quoi. Passive. Aucune action, aucun intérêt. Et donc, le côté du « je me mets en sauveur » Et du coup, je place tout le monde en fonction de ça, quoi. Et ce qui veut dire aussi que malgré nous, malgré nos bonnes intentions, on peut facilement tomber en persécuteur. Ou à un moment, je commence à accuser toutes les autres personnes. Il y a un sauveur, il ne fait pas son boulot. Il y a une victime, en fait, il faudrait qu'elle se bouge un petit peu. Parce qu'on n'a pas besoin de victimes, on n'a pas besoin de gens passifs, on a besoin qu'ils se bougent aussi. Et donc, par la frustration que je reçois, que je ressens, je mets toutes les autres personnes dans une posture différente. Et l'un des intérêts de cette idée-là, c'est de dire comment est-ce qu'on sort de ça pour pouvoir voir la situation d'une manière autre et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. En fait, en fonction de là où on est emprisonné, dans une de ces postures, ça va totalement refléter nos actions. Que je me sente en victime, que je me sente en sauveur ou que je me sente en persécuteur, il y a des actions que je considère comme directement reliées à cette posture que je dois assumer ou que j'assume simplement par émotion. Et donc, la question est comment je sors potentiellement de ça pour pouvoir mieux voir la situation telle qu'elle est et comment je sors de cette situation pour pouvoir mieux prendre des décisions. Ça va jusque-là? Douleur. Deux, trois choses. Rapidement, après on fait ça. Donc, on a parlé du risque d'être pris dans le triangle de Cartman. Et peut-être que vous pouvez voir pour vous, tiens, à certains moments, où est-ce que je suis, quoi. Non, je vais vous donner un exemple avec ma femme, mais je ne peux pas s'enregistrer. Vigilant sur il faut le faire. La sensation du, en fait, je fais ce que je fais parce qu'il faut le faire. En fait, c'est nécessaire. En fait, si je ne le fais pas, qui le fait? Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que se dit Marthe à un moment. C'est marrant quand Marthe dit, en fait, j'invite Jésus pour que lui me parle et pour que lui m'enseigne. Et puis après, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? OK, je prends la main. Je fais le service. Je donne à manger. Je vais prendre soin. Je vais faire des trucs. Et donc, ce côté, il faut le faire, bizarrement, donne la sensation d'une imposition extérieure. Et comme si j'étais, moi, victime du au regard des circonstances, il faut bien que quelqu'un le fasse, ça va être moi. Et donc, être vigilant sur « il faut le faire », comment le relativiser parfois. Deux, je le fais pour Dieu. Ça, c'est un bon truc de chrétien, quoi. Et bizarrement, comme quoi l'intention de servir Dieu peut nous empêcher d'écouter Dieu. Et ça, c'est terrible, en fait. Quand on se dit, quand Marthe le fait, en fait, si on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis assez convaincu qu'elle fait, en fait, je veux servir Jésus, quoi. Logique, quoi. En fait, l'intention est extraordinaire, en fait. Il n'y a pas de question sur l'intention. Et en fait, parfois, on est tellement pris dans cette intention positive et dans cette action que l'on considère comme naturelle pour pouvoir répondre à cette intention, qu'on en oublie de se dire, ah ouais, mais en fait, avant ça, il y a l'écoute de ce que Jésus veut profondément. Et c'est intéressant, Johan en parlait tout à l'heure sur, en fait, le sacrifice. C'était quoi le premier point sur les trois points à avoir? C'était d'être agréé par Dieu, c'était ça? Et c'est marrant, quoi. La différence entre, tiens, ah ouais, en fait, je veux faire un sacrifice, je vais sacrifier un lézard. Ouais, mais en fait, pas de bol, quoi. Et donc, le fait de se dire « je le fais pour Dieu » est potentiellement une bonne intention et pourtant, elle peut être un risque si on n'est pas en écoute. Et trois, Yon en a parlé aussi avant, la valeur chrétienne de l'effort et du sacrifice. En fait, c'est étonnant comment parfois on se dit, un peu en lien d'ailleurs avec le point précédent, « si tu le fais pour Dieu, vas-y à fond ». Il faut y aller, c'est bon, c'est pas grave, c'est du sacrifice. Il y a des désastres qu'on est en train de voir dans l'Église qui sont inacceptables, quoi. On a des familles détruites parce qu'on se dit, je le fais pour Dieu, je fais de l'effort et c'est du sacrifice. Ouais. Bon, et on accepte ça, du coup. Enfin, on se dit vraiment entre nous, ouais, en fait, c'est vraiment ce que Dieu veut. On en est vraiment parfois à se dire, OK, donc je mets des œillères, je ne vois plus que ça, et je ne vois plus tout le reste. Je ne suis plus en capacité pour seulement d'écouter ce que Dieu veut profondément, et pour potentiellement de sacrifier mon sacrifice, c'est-à-dire de mettre en pause ce que je suis en train de faire, que je pense est nécessaire pour Dieu, parce que potentiellement, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Dans ces choses importantes, il y a votre environnement, il y a aussi vous potentiellement, C'est-à-dire à quel moment vous êtes suffisamment attentif à vous-même, justement, pour pouvoir être au service de Dieu. Et donc, parfois, on met tellement d'efforts, on met tellement de valeur sur le côté. Ok, donc, si tu fais l'effort, si tu es dans le sacrifice, c'est bien. Tu es sur le bon chemin. Et je me permets de donner des convictions personnelles fortes, et je sais que d'autres personnes ne seraient pas forcément d'accord. Ouais. Maintenant, j'assume. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je me dis. Donc, je suis tout à fait prêt à discuter de ce que je dis. Si on est en désaccord, je suis tout à fait ouvert à en parler. Par contre, je vais me permettre d'être assez franc. Je dis, dans le temps court que l'on a, je vais vous balancer deux, trois trucs. Il ne fallait pas m'inviter. Mais, ouais, pour moi, il y a quand même cette question. Je me suis dit, tiens, au sein de l'Église, comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres en disant, au-delà de l'effort et du sacrifice, quels sont les éléments essentiels sur lesquels on doit être vigilant. Et dernier point, on en a parlé un petit peu avant au déjeuner, nous avons tous besoin à certains moments d'être nourris et ressourcés. Et en fait, le truc de Marthe, c'est qu'elle invite Jésus en se disant « je vais recevoir ». En fait, elle est tellement dans l'action qu'elle est plus prête à recevoir. Et parfois, on est tellement pris dans ce que l'on doit faire, dans nos responsabilités, dans la nécessité de ce que l'on est en train d'amener, qu'on n'est plus en capacité de prendre soin de soi. Alors moi, je me dis, quand le personnel soignant ne sait plus prendre soin de soi, on a une petite problématique quand même, quoi. Donc, la question du « vous », comment est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer, pour être nourri? Et c'est un peu pour moi l'un des enjeux de cette journée, de pouvoir aussi pouvoir le faire entre vous aujourd'hui. Ça va jusque-là? Donc, je vais vous proposer une petite chose. On va se faire une pause maintenant. Au retour de la pause, je vais vous proposer de pouvoir écrire une question ou une chose que vous aimeriez obtenir durant la journée qu'on va voir ensemble. Vous allez beaucoup plus bosser maintenant, je vous le dis. C'est le moment où je fais une pause de 4 heures. Et donc, l'enjeu va être que vous puissiez définir une question ou un sujet que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez travailler. Je vous le dis déjà, parce que je vais générer une frustration, on va pas pouvoir traiter toutes les questions. On va essayer de mettre un système pour se dire, on va en choisir quelques-unes et on va essayer de travailler ensemble sur ce sujet-là. Le processus va être, on va se prendre 6 sujets, je pense. Et donc, on va faire 2 fois 3 ateliers. Donc, une personne va être porteuse d'une question et va être responsable d'expliquer sa question, de gérer l'atelier, de ensuite prendre des notes pour pouvoir le présenter à l'ensemble du groupe ensuite. Donc, on va faire 3 ateliers en même temps. Ce matin, on va faire 3 ateliers ensuite cet après-midi. Et après chacun de ces processus, on va avoir un temps de retour pour se dire avec quoi vous repartez de cet atelier. Les personnes qui vont porter l'atelier vont avoir le rôle donc d'expliquer la question, de pouvoir prendre des notes, et ensuite de rapporter les éléments essentiels. Et les éléments essentiels seront 3 ou 4 éléments maximum. Vous aurez que 3 minutes pour expliquer ce que vous avez vécu durant l'atelier. Ah ouais, je sais. Pragmatique. Je travaille dessus. Hein, mais on va donner que 3 minutes, mais juste pour être sûr qu'on respecte le temps et ne pas finir trop tard. Est-ce que ça vous va jusque-là? Ok. On se prend le temps de pause. On avait prévu une demi-heure. Est-ce que je peux dire 25 minutes? On a le droit? Ok, ça va. Donc, on se dit, allez, c'est 20. Donc, ça fait 26 minutes. À 11h20, on se retrouve ici. Une moins quart, c'est ce que c'était compté. Ah non! 35. Donc, ah ouais, ça va être short. Donc, je vais vous demander, hein, si vous avez un sujet ou une question que vous aimeriez, dont vous aimeriez que l'on parle ou que l'on traite en groupe, ensemble. Donc, vous allez la noter. Je vais vous demander de l'écrire en grand. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un souci. Je dis, ce n'est pas que vous avez l'obligation d'en avoir. Si vous en avez, l'écrire. Si possible, l'écrire en grand et le mettre en question. Et en dessous, de mettre votre nom. Pour les personnes qui sont en ligne, on va le faire un petit peu différemment. Parce que comme vous allez travailler entre vous, vous allez mettre sur le chat les questions que vous aimeriez traiter. Donc, dans le cas du chat, vous pouvez mettre plusieurs questions pour que vous ayez du choix. Ici, dans la salle, chaque personne ne pourra mettre qu'une seule question sur le papier. Donc, si vous aviez un sujet, une question que vous aimeriez traiter dans le groupe, qu'est-ce que ce serait? et mettez votre nom en fiche. Pour cela, pour structurer, je ne vous donne que 5 minutes. Donc, sur la feuille, mettez, si vous avez, une question ou un sujet que vous aimeriez, dont vous aimeriez parler ou traiter en sous-groupe. Pour vous répéter la structure, on va faire 6 ateliers, donc 3 ateliers et 3 ateliers, où vous allez parler ensemble, essayer de pouvoir traiter l'un des sujets qui sera sélectionné, pour que la personne qui a posé le sujet puisse ensuite faire un résumé à l'ensemble du groupe. Donc l'enjeu va être de pouvoir, un, questionner, de trouver potentiellement des premières pistes, des réponses, ou des aides, ou enfin, ce que vous voudrez, ça sera à vous de décider, mais c'est que la question puisse générer quelque chose qui est de la valeur ajoutée pour vous. Donc, question, sujet, qui pour vous est important que vous aimeriez traiter en atelier. Forcément, non, on peut parler de la Coupe du Monde de rugby, mais... en lien, mais en fait, mais oui, il faut que ça soit en lien, mais après, ça peut prendre des formes très différentes. Je vous laisse un espace de liberté assez grand parce que la question, c'est que ça soit important pour vous, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être un truc que tu avais en tête et, où était le but? Bon, s'il n'y a pas de doute, très bien. Hein, mais... Sinon, on fait l'inverse. Si tu as une question, pose-la, on voit comment c'est validé. Si c'est compris, validé. Pour ceux qui ont une question, vous allez vous lever, lire la question que vous avez notée. Ah, attendez. Je reviens en arrière alors pour expliquer. Deux, trois petites choses. Donc, j'ai dit en introduction, je vais le répéter, je vais vous faire bosser. J'ai une semaine compliquée, lourde, là, c'est samedi. Donc, je vais vous faire bosser, très clairement. Vous allez donc vous levez, lire votre question, et ensuite, vous allez la coller sur le mur là-bas. Donc, parce que l'idée, c'est qu'ensuite, vous allez tous devoir voter sur le sujet. Chacun va devoir voter sur deux sujets principaux qui l'intéressent. Et on va en prendre que 6. Donc, les 6 qui auront le plus de votes sont les 6 que l'on va utiliser pour faire nos ateliers. Mais l'idée, c'est que vous lisiez votre sujet pour que les personnes puissent identifier quelle est la personne qui propose un sujet ensuite. Et vous le collez sur le mur qui est là-bas. Ça marche? Je vous fais par étapes, je vous dis pas tout le truc, sinon je sens que non, je veux qu'on soit bien clair sur chaque étape. Ok, ça marche. Je commence là un peu. Ah, oui, très bien, très bien.
Donc, moi, c'est comment faire face ou répondre autrement que par non à la pression de il faut bien le faire.
Il faut le faire.
Ok, ça marche. Ok, ça va. Tu prends un blue tag, un ou deux, ouais, c'est ouais, ouais. Super. C'est cool là-bas. Ok, super. Personne suivante.
Quels sont les signes précoces évocateurs d'une bascule de la vocation vers le sacrifice?
Ok, ça marche. Ouais. Tu vas suivant? Ouais.
Quels sont les outils préalables à connaître pour mettre en œuvre pour éviter de tomber dans les risques du triangle de Carpentras?
Ok.
Comment définir
nos... Ah, j'ai oublié de vous dire, par contre, dites vos noms, j'ai oublié. Parce que comme vous ne vous connaissez peut-être pas tous, forcément.
Ah oui. Ça peut être l'occasion de se présenter, moi je me suis déjà présenté.
Alors, juste dire vos noms. Non, je ne vais pas faire présentation parce que présentation chrétien, ça peut être un peu long. On va pas se mentir.
Je suis
converti. Donc, ouais, juste vos prénoms.
Hervé, pour moi.
Hervé.
Ok.
Moi, c'est Rucan. Et donc, ma question, c'est comment définir nos limites en tant que soignant et savoir être.
Ok, super. Merci.
Merci Alexandra. Alors ma question, faut-il prioriser une vie de famille face à notre vocation?
Ok. Merci. Tu peux faire le bruit. Suivant, suivant.
Alors, au début, vous dira peut-être quelque chose. Profession de santé en milieu hospitalier laïque. Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est un sacrifice? Ou est-ce que c'est éventuellement autre chose?
Jean-Yves, c'est la vie. Jean-Yves. Next.
Alors, Laetitia, comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle?
Non, ça fait genre Sainte-Seine qui fait.
Rien à voir, attention.
Mathieu, quelles ressources pour trouver l'équilibre entre vocation et sacrifice?
Suivant, suivant.
Bonjour, je m'appelle Anaëlle. Ma question, comment rester humble quand on nous met en position de sauveur constamment?
Ah, vous avez une idée extraordinaire quand même. Ok, ça va.
Je vais travailler.
Moi, c'est Sylvie. Alors, à quel moment doit-on lâcher prise et décider que la situation n'est plus de notre ressort? Alors, moi, c'est Annette. C'est peut-être hors sujet ce que je vous posais, mais je vais vous parler de ma question. Comment être un manager dans le sens gestion des équipes dans une structure de soins?
Bonjour, je suis Stéphanie. Comment accompagner les soignants, même aussi, mais aussi les personnes autour de soi, sans basculer dans la charge mentale ou et un sacrifice désagréable? Alors, bonjour, moi c'est Chrislaine. Donc j'ai dit, en voulant aider les autres, à quel moment ou comment dire non aux autres sans avoir le sentiment de culpabilité?
Moi, c'est Alice. Donc, ma question, c'est comment continuer à vivre dans la vocation soignante malgré les dégradations des conditions de travail actuelles?
Comme si il y avait un Armageddon avant le véritable Armageddon. Je voudrais vous inviter à faire deux choses. Prier pour que soient neutralisés les esprits de meurtre et de terreur qui se répandent partout. Et deuxièmement, prier.
Il y a d'autres questions? C'est bon? Ok, alors juste une chose, avant qu'on passe au truc, j'aimerais bien quand même demander aux gens sur Zoom de pouvoir nous dire les questions que vous aviez, au moins qu'elles soient entendues ici. Ça vous va?
Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on vous entend.
Voilà, il faut que je mette ça.
Non, est-ce que c'est moi qui dois mettre le... Ah. Moi, j'ai coupé le son, mais je peux...
Voilà.
Tu as du son sur ton ordi ?
Ça passe partout.
En fait. Ah, ça sent moi ? Ok. Non, on a... Ah ouais, mais on a un écho. On a un écho parce que le son vient chez toi. Parce que... Alors, il faudrait que tu sortes le son chez toi, si possible.
Ça ne sortira pas par la télé parce que c'est toi qui as la télé.
Non, c'est pas grave si ça sort sur l'ordinateur. C'est pas grave. Ouais.
Ok. Alors.
Je pense.
C'est vous, vous pouvez parler.
D'accord. Ouais. Donc, c'est Edwige. Comment accepter et présenter un choix de priorité sans que d'autres choix se voient méprisés ou soient perçus comme moindres. Et deuxième question, comment faire que ce soit moins compliqué pour moi, parfois, de me laisser soumettre au choix de priorité de mon Dieu sans le discuter.
Je n'ai jamais eu ce problème. Ah! J'ai dit, Louise, il n'y a que vous qui avez ce problème. Donc, j'ai jamais vu que ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, alors ma question, ça rejoignait un petit peu celle d'Edwige. Comment gérer la tyrannie d'urgence de bonne façon ?
OK, ça marche. Il y en avait d'autres ? Ces trois-là ? OK, alors ça marche. Donc, ce qu'on va faire, donc on va faire deux processus entre la salle et pour vous. Non, on va le faire comme tout le monde. Donc, vous allez devoir choisir deux sujets. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux temps, un ce matin avant de manger et un deuxième donc au retour du déjeuner. Sur chaque temps, on aura une demi-heure. Donc, ça va être court pour parler d'un sujet parce qu'il y aura une demi-heure pour discuter, 10 minutes pour que la personne qui est porteuse du sujet puisse faire un résumé et se dire quels sont les éléments essentiels à prendre en compte. Et ensuite, de pouvoir faire un résumé à l'ensemble des personnes. Quelques règles par rapport aux ateliers. Et après, on va faire les votes. Je n'impose à personne d'être dans un atelier. C'était le principe du ce qu'on appelle forum ouvert. Je ne suis pas en train de le faire exactement comme un forum ouvert tel qu'on définirait. Mais le principe de ces temps-là, c'est que les gens utilisent ce temps comme ils le souhaitent et ce qui se passe, se passe. Ce qui veut dire que les discussions qui se font hors atelier ont aussi leur utilité. Ce qui veut dire que si il y a aucun atelier qui vous parle profondément et que vous avez plutôt envie de prendre un café et de discuter avec quelqu'un, il n'y a pas de jugement. C'est pas la même chose du il faut que vous soyez devant durant le culte, vous n'avez pas le droit de... On n'en est pas là. Donc, le choix, vous le décidez. Vous gérez ce temps comme vous le souhaitez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais demander donc les personnes qui sont dans la salle, à tout le monde, de pouvoir voter sur deux ateliers. Donc, juste mettre une barre. L'objectif pour moi est de pouvoir compter le nombre de barres. Donc, choisir deux sujets qui vous semblent les plus importants, les plus intéressants pour vous, sachant que vu l'organisation, ça se trouve, vos deux ateliers préférés seront en même temps. Il y a une possibilité là-dessus, je préfère vous le dire au départ, mais au moins, c'est de pouvoir se dire, tiens, quels sont les ateliers qui sont potentiellement les plus marquants ou parlants pour un maximum de personnes. Donc, dans la salle, tout le monde se lève, et avec un papier, vous marquez, mettez une barre sur les deux sujets qui vous intéressent.
Il n'y a pas des sujets qui se regroupent
Alors, peut-être. Le point est que, on va voir après sur le comptage, ça, je vais m'en occuper, parce que si deux personnes ont des sujets qui sont proches, en fait, il y aura une personne qui le portera, et la personne qui était sur un autre sujet ira à cet atelier. Donc, il n'y a pas de problème. Le seul risque qu'il y a là-dedans, c'est que potentiellement deux ateliers qui aient le même sujet, mais qui les votes soient séparés, qu'on loupe le sujet, alors qu'en réalité, il peut être important. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Okay. Je me comprends, mais ma femme me dit souvent que je suis le seul à me comprendre. Donc, c'est le seul risque par rapport à ça. Mais ça, on verra au moment où on verra le tout. Pour les personnes qui sont en ligne, du coup, je vais vous demander de pouvoir définir ensemble deux sujets. Vous en avez trois, si je ne me trompe pas.
Je renvoie
le mien. OK. Ouais, mais en fait, parce que comme il faut qu'elles le portent, il faut que ce soit un sujet qui soit le leur. Okay. Donc, de choisir deux sujets sur les trois que vous avez proposés. Ça marche ? Non, 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 vous proposez, mais ça. Alors, deux choses. Ça se trouve, vous avez proposé un sujet, et puis vous dites, ah, en fait, j'ai deux autres ateliers qui m'intéressent plus. Par contre, si votre atelier est le plus voté, pas de bol, vous le portez quand même. Donc là, vous êtes dans le sacrifice. Voilà. Vous le vouliez, vous l'avez. Donc, il est possible qu'il y ait cette situation-là, de se dire… en fait, l'un des enjeux, c'est que la personne qui est posée la question soit la personne qui la porte complètement. Donc, effectivement, il y a ce risque-là.
Pour éviter ce risque, quid de la question, est-ce que je vote ou est-ce que je ne vote pas pour l'atelier que j'ai choisi ?
Pour moi, ça reste toujours le côté du « qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?» Donc, si votre question reste la question qui vous intéresse le plus, vous la votez. Si vous pensez qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent plus en les ayant écoutées, vous pouvez voter pour autre chose. Ça va ?
Ouais.
5 minutes. Les personnes en ligne, vous m'entendez ? Ça va ?
Oui.
Oui, je vais voter. Ok, parfait. Petite décision maintenant. Il est 12h30, on a deux options. Option 1, on fait les retours maintenant. Si c'est 3 minutes par groupe, ça veut dire qu'on a 12 minutes, disons un quart d'heure, ça veut dire qu'on a plutôt fini vers moins quart. Autre option, on part manger maintenant, on les fait au retour. Par contre, si on les fait au retour, je pense que je vais diminuer un peu le temps pour être sûr qu'on est dans le cadre dans l'après-midi. Mais je vous laisse le choix du est-ce que vous voulez faire les retours maintenant ou après. Maintenant ? Ça vous va maintenant ? Ok, ça marche. Ok, on fait maintenant. On commence. Tiens, on va commencer par les personnes en ligne qu'on vous a pas encore beaucoup entendu. Sinon, je vais essayer de mettre le son. T'as un haut-parleur ?
Oui, c'est bon, j'ai un haut-parleur.
Ah bah voilà. Ok, donc sachez que vous êtes maintenant vu par l'ensemble de la France, de l'Europe et du monde.
Alors on a...
Ah pardon, je remets certaines règles, je préfère le dire avant. Donc 3 minutes.
Voilà. Ok.
À 3 minutes, j'interviendrai avec vous, d'amour, mais je le ferai.
Voilà. Alors, on a répondu, enfin, on a essayé de répondre à la question comment gérer la tyrannie de l'urgence selon le Seigneur, la meilleure façon. Alors, en fait, justement, on s'est référé à un texte biblique, enfin, comment Jésus gérait les situations urgentes. Et on a pensé à ce texte qui a parlé de la résurrection de la fille de Jaïrus avec l'interférence de cette dame avec sa perte de sang. Comment Jésus a géré cette tyrannie d'urgence? Justement, on s'est dit que Jésus n'a pas fait ce qu'aurait fait un soignant qui aurait considéré que la petite qui était près de mourir, bah, c'était l'urgence auquel on aurait couru. Justement, Jésus s'est laissé arrêter par cette femme à la perte de sang. Il a considéré que c'était aussi une urgence importante, et il a même été jusqu'au bout dans la prise en charge de cette urgence qui, pour nous, aurait, surtout que ça faisait des années qu'elle avait ce problème, qui nous aurait paru plutôt non prioritaire. Mais il a été jusqu'au bout avec elle. Et ensuite, il s'est bien occupé de cette femme, et ensuite il s'est occupé de l'urgence prioritaire pour nous, qui était cette petite qui mourait. Donc, on voit bien qu'il avait une maîtrise de la situation. Il n'a pas été dominé par l'angoisse ambiante. Il savait voir les priorités. Il était en communion étroite avec son Père, et on a souligné ça, que cette communion avec le Seigneur, si on entretient cette communion avec le Seigneur, il peut nous aider aussi à voir les priorités et à gérer au mieux ces situations en tenant compte aussi de notre environnement, de nos équipes, l'équipe soignante, le fait de bien se connaître au sein de nos équipes soignantes et de gérer les relations aussi de bonne façon, d'essayer de transmettre la paix que le Seigneur peut nous donner dans des situations urgentes comme celle-là. Ça peut être quand même très utile pour être efficace. Voilà. Il faut cultiver cette relation avec le Seigneur parce que Jésus, lui.
Vous voulez dire la pauvre Johan? C'est vrai? Attends, incroyable. Ah, moi aussi. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ah non, je suis en écran là. Une seconde.
Ah, je suis barré.
D'accord. Ouais.
Ok, il a décidé un truc.
Alors, juste, je mets là pour que vous me voyez, parce que je vous dis ce qui vient de se passer. Donc, Elisabeth, Johan est beaucoup plus cruel que moi. À 3 minutes plus, il a dit c'est fini, donc on n'a pas entendu ce qui s'est passé après. Mais c'était très bien. Donc, par contre, ce que vous avez dit après, j'ai vu que vous aviez.